VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre Boko Haram. 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors de violents combats contre les djihadistes sur 5 îles nigériennes du lac Tchad. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP ce lundi à N'Djamena le porte-parole de l'état-major tchadien, le colonel Azem. Selon le colonel Azem, les forces tchadiennes ont attaqué les éléments de Boko Haram sur ces 5 îles le 24 et 25 juin et les ont chassés du secteur. 160 djihadistes ont été tués, a précisé le porte-parole tchadien, qui chiffre les pertes tchadiennes à un total de 8 morts et 18 blessés. Les troupes tchadiennes faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian, a souligné le colonel Azem. Ces combats ont lieu alors que le président tchadien Idriss Déby Itno menace de retirer ses troupes des opérations militaires en Afrique si son pays n'est pas soutenu financièrement. Le point avec Idriss Fall.
Si rien n'est fait, le Tchad sera obligé de se retirer des opérations extérieures sur le continent, a déclaré Idriss Déby Itno dans un entretien avec des journaux parisiens. Avec près de 1400 hommes, le Tchad fournit déjà le troisième contingent à la mission onusienne au Mali et quelques 2000 soldats tchadiens sont dans la force conjointe avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun pour combattre Boko Haram. D'après l'homme fort de N'Djamena, tout cela coûte cher. Il s'est montré très réticent à envoyer de nouveaux soldats pour la future force du G5 Sahel. En février, les chefs d'État du G5 Sahel réunis à Bamako ont annoncé la création d'une nouvelle force pour en découdre avec les djihadistes de la région. Dans ce sens, une résolution a été adoptée mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais depuis plusieurs années, le Tchad subit une sévère crise économique et sociale, aggravée par la chute de ses revenus pétroliers.
On reste au Tchad. La majorité présidentielle et l'opposition sont à couteau tiré sur les réformes institutionnelles. Le Haut Comité, mis en place à cette fin il y a environ 3 mois, multiplie ses contacts avec les acteurs politiques, contacts pouvant aboutir à un forum national sur les réformes générales de l'État. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Présidé par le premier ministre chef du gouvernement, le Haut Comité de réforme institutionnelle est éclaté en 9 sous-comités thématiques. Ces sous-comités sont à pied d'œuvre pour recueillir les avis, propositions et contributions de tous les acteurs de la vie publique sur l'ensemble du territoire national sur des questions liées à la refonte des institutions étatiques tant décriées par les citoyens. Un processus qui ne vise autre que la mise en place d'une nouvelle constitution taillée sur mesure par le régime au pouvoir à travers l'organisation de forums national dénonce le mouvement citoyen INA. Le FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, n'entend pas collaborer avec ce comité et exige un dialogue inclusif. Mahamat Bar Béchir est membre de ce regroupement de l'opposition démocratique.
Déby, après 27 ans de confiscation du pouvoir, il veut instaurer dans ce pays-là une dynastie, donc céder après le pouvoir à un de ses fils, parce qu'il a trouvé une nouvelle forme en se référant à la situation ivoirienne. Donc ils ont déjà élaboré leur constitution. Ils nous invitent à un atelier de validation et donc nous disons non. Il faut un dialogue politique national inclusif pour résoudre les problèmes du Tchad et la révision de la constitution ne peut être une des recommandations ici de ce dialogue inclusif et non cette diversion autour d'un forum ou d'un atelier de validation d'une nouvelle constitution qui ne servira absolument à rien.
Le coordonnateur du cadre de réflexion, de concertation et d'action politique, un regroupement des partis politiques de la majorité présidentielle, qualifie les propos de l'opposition démocratique de marchandage. Abdel Salam Yaya Idriss.
Tout ça sont des procès d'intention qui ne grandit pas l'opposition et qui la ternit même par rapport à une partie de la population qui lui faisait confiance. Dans les questionnaires qui ont été envoyés aux différents regroupements politiques, il n'a jamais été évoqué le problème de la vice-présidence.
Le président du comité technique du Haut Comité de réforme institutionnelle, Abdoulaye Sabre Fadoul, appelle les classes politiques à la retenue et au bon sens pour la réussite de ces réformes engagées par les hautes autorités de la République pour le bien-être de la population.
J'invite les acteurs politiques à garder leur sang-froid. Ce n'est pas le moment de polémiquer, rien n'est encore définitif. Le forum national, c'est encore loin. Et donc, l'opposition a tout intérêt à saisir cette occasion pour venir défendre ses convictions. J'entends un dialogue inclusif, mais personnellement, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Si s'il est question de refaire une conférence nationale souveraine, mais qui vient défendre cette option-là. Mais si une partie de la classe politique se fiche dans une posture radicale, je pense qu'il y a un grand risque que les débats soient biaisés et qu'au final, personne ne sort gagnant de cette phase très critique.
André Kodma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Congo-Brazzaville, la fille du président congolais Denis Sassou Nguesso a été inculpée en France dans l'enquête sur l'origine du patrimoine fastueux des familles de plusieurs dirigeants africains en France. Le procès dit des biens mal acquis a commencé lundi dernier à Paris par le jugement du fils du président équato-guinéen en l'absence du prévenu. Au lendemain du début du procès de Théodorine Obiang, les juges d'instruction parisiens ont mis en examen Julienne Sassou Nguesso et son mari Guy Johnson. Les enquêteurs s'interrogent sur l'origine des fonds qui ont permis au couple d'acheter en 2006 un 7 pièces avec piscine à Neuilly-sur-Seine, banlieue UP de Paris, pour plus de 3 millions d'euros et une facture de plus de 5 millions d'euros pour des travaux. Les limiers français s'interrogent aussi sur l'achat par le gendre du président congolais en 2007 d'un hôtel particulier dans un quartier cossu de la capitale française pour quelque 19 millions d'euros. Jean-Marie Viala, avocat de la famille présidentielle, rejette toutes ces accusations et assure que cette affaire qui dure depuis 10 ans déjà sera annulée par des procédures tout à fait légales. Afrique de l'Ouest, le Mali a célébré hier la fête du Ramadan qui consacre la fin du carême musulman. Le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a profité de cette fête pour appeler les Maliens à l'union sacrée. Il a beaucoup fait allusion à son projet de révision constitutionnelle qui lui tient particulièrement à cœur. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La fête de Ramadan marque les 29 ou 30 jours de jeûne chez les musulmans, d'où son importance.
Tout effort mérite une récompense. Donc cette journée est la récompense de ceux qui ont jeûné convenablement.
Les différents sermons prononcés par les imams étaient axés sur la cohésion, le pardon. Ils ont surtout imploré Allah pour le retour de la paix au Mali. Ce souhait des imams correspond aux aspirations de certains fidèles musulmans.
Ça permet de montrer encore l'une des valeurs de l'islam. C'est-à-dire les cadeaux qu'on fait aux enfants ou aux frères ou aux voisins, c'est pour montrer l'amour.
Le président Ibeka, qui a prié au niveau de la grande mosquée de Bamako, a demandé aux Maliens plus de concorde, d'union et d'entente entre les fils de son pays.
Les gestions d'État sont des gestions temporaires. Et si quelqu'un perturbe aujourd'hui, fait en sorte que le pays ne puisse pas avancer, ne se relève pas, mais demain, c'est lui qui sera là, aura des difficultés. C'est pas souhaitable. Et l'ensemble malien sera en difficulté. Ce n'est pas souhaitable. Mais troubler son pays, le mettre en difficulté, l'en donner l'image la plus détestable au monde entier n'est pas seulement la meilleure façon de prouver son amour du pays, son amour du Mali. Je souhaite que chacun d'entre nous fasse un effort sur soi de compréhension, de hauteur pour s'élever à la hauteur de la situation du Mali.
Ibeka, qui fait allusion à son projet de révision constitutionnelle, a fait savoir que sans référendum, l'accord issu du processus d'Alger ne pourra pas être appliqué. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Pakistan, le bilan de l'incendie d'un camion d'hydrocarbures vers lequel des riverains s'étaient précipités hier pour récupérer du carburant atteint maintenant aujourd'hui 153 morts alors que le pays célèbre ce lundi l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Ce jour de l'Aïd est devenu un jour de deuil et de douleur pour nous, a déclaré le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. Plus de détails avec de nouveau Idriss Fall.
La catastrophe a eu lieu près de la ville d'Ahmedpur East, à 500 km au sud de Lahore. Selon un responsable pakistanais, un camion citerne qui transportait 40 000 litres de carburant du port de Karachi à Lahore s'est renversé sur l'autoroute après éclatement d'un pneu. Les habitants d'un village voisin se sont précipités sur les lieux pour récupérer le carburant avec des seaux et des bidons. Le véhicule a explosé, créant une énorme boule de feu. De nombreuses personnes ont été calcinées après avoir été prises au piège dans l'embouteillage monstre qui a suivi. Plus de 100 carcasses de voitures et motos carbonisées jonchaient la chaussée. La fin du Ramadan au Pakistan avait déjà été endeuillée par une série d'attentats qui ont fait au moins 65 morts. Vendredi, une attaque contre un marché bondé d'une localité chiite près de la frontière afghane, a fait plus de 50 morts. Le même jour, un attentat visant la police a fait 14 morts à Quetta et 4 policiers ont été abattus à Karachi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.